crois que c'est bon. Bon, s'il vous plaît, monsieur, je vais commencer par vous demander votre nom et puis votre date et lieu de naissance.
Voilà, donc Hervé Ott, O2T.
Oui.
Je suis né le 7 mars 1949.
Oui. Où
Le
ça?
lieu à Lalonde-les-Morts. Lalonde-les-Morts.
Les morts, le
MAURES.
MAUR.
RES, c'est dans le Var.
Dans le Var.
Près de Toulon.
Oui, d'accord. Et il y a les montagnes qui s'appellent les morts ou les
Oui,
collines.
voilà, c'est
Voilà.
ça, c'est là,
Voilà.
c'est par là.
Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille, père, mère, etc.?
Alors, ma famille sont des vignerons
Oui.
qui ont fait du vin. C'est mon grand-père qui a immigré dans le sud de la France pour faire du vin. À l'époque, on ne disait pas biologique, mais c'était déjà ça, son souci. C'était de faire du vin sain.
D'accord. Mais émigré d'où?
De Paris, parce que ses parents avaient fui l'Alsace en 1872, après
Oui,
l'occupation
oui.
allemande.
Donc sa famille était d'origine parisienne, il s'est fait vigneron.
Alors, c'est juste mon grand-père est né à, non, mon grand-père est né en Alsace,
Oui.
mais par contre, ses parents qui avaient immigré de l'Alsace à Paris, et lui est venu s'installer dans le midi de la France. Voilà, où sont nés mes parents, mes oncles, etc.
D'accord.
Et ma famille, enfin, dans ma famille, ils ont fait un vin qui était assez réputé dans le sud de la France.
Qui s'appelle
Domaine Haute.
Domaine Haute.
Voilà.
Et votre mère
Alors, ma mère est d'origine lyonnaise,
Oui.
avec quelques ascendances suisses même.
Et
Et son,
oui.
et son père est mort à la guerre en 14. Donc elle a été orpheline très tôt, à 18 mois, je crois.
Elle a travaillé ou...
Non. Non, elle a élevé ses enfants. Nous
D'accord.
étions 6 enfants.
Six enfants.
Voilà. Je
Et
suis
de...
l'avant-dernier.
D'accord. Et de religion?
D'origine protestante.
Luthérien?
Non, calviniste réformé. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas encore, mais.
Quoi, l'église réformée existait?
L'église réformée a été constituée en 38. Ouais. Mais donc, c'est la branche calviniste. Mais avec très peu de. Mon père était agnostique et ma mère a toujours eu des engagements dans l'église.
Mais les gens d'Alsace sont plutôt luthériens.
Oui, mais alors, mais je pense que je sais pas quel était l'investissement de mes grands-parents, mais je pense qu'ils n'en avaient pas. Ils
Oui.
n'avaient pas d'investissement religieux.
D'accord.
Par contre, j'ai un oncle qui a été très impliqué dans l'église réformée de Nice. Voilà.
D'accord. Comme pasteur ou...
Non, non, il était trésorier dans la paroisse.
D'accord.
Mais du côté de ma mère, j'ai, je crois, 7 ancêtres qui ont été pasteurs. Assez long, à des générations
Oui, dans le temps.
assez éloignées, oui.
Oui, d'accord. Et du point de vue politique, ils étaient...
Alors, mon père a fait partie du Parti social français de l'AROC.
Ah, oh, d'accord.
Voilà.
Oui, le PSF.
Oui. Et puis il est devenu gaulliste quand tout le monde est devenu gaulliste. Non,
C'est-à-dire en 44
non,
ou
non, non,
en
en
58.
62, oui, en 58, oui, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir. Il en a toujours voulu à De Gaulle d'avoir laissé mourir Larocque en prison.
C'était sa faute?
Ah ben De Gaulle a refusé de cautionner Larocque, oui. Larocque a été arrêté, je crois.
Oui, il a été arrêté par les Allemands,
Oui,
et
et
puis
il
il
a.
est revenu, il est toujours en
Et
prison.
il me semble qu'il y a eu. Enfin, je sais que mon père en a voulu à De Gaulle. Alors, je crois que De Gaulle n'a pas fait ce qu'il fallait pour libérer Larocque. Oui.
D'accord.
Et mon père a failli à un moment, c'est ma mère qui racontait ça, mon père voulait répondre à la demande de Larocque d'aller remplacer les prisonniers allemands. Il voulait se porter volontaire
Oui.
pour aller remplacer les prisonniers français en Allemagne. Et ma mère lui a dit, si tu fais ça, je divorce.
D'accord.
Voilà, donc il a toujours été très admiratif de Laroque.
Oui.
Et même très longtemps, dans les années 60, il continuait à aller à des rencontres annuelles des anciens de Laroque.
Et comment est-ce qu'il a vécu l'occupation?
Alors, je crois que ma famille était plus ou moins dans la collaboration.
Oui.
Plus ou moins. Enfin, j'ai un oncle qui était maire du village de la Londe les Morts.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il acceptait de... Il acceptait de collaborer avec Pétain, quoi. Bon, alors, dans l'idée, c'était, il faut défendre ce qu'on peut défendre.
Oui, d'accord.
Mais à la libération, mon père a été mis en deux jours, en prison pendant deux jours. Et on est venu lui cracher dessus en le traitant de collabo. Je crois pas qu'il ait vraiment collaboré, mais bon, ils n'avaient pas une position de résistant, en tout cas.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et ça, j'ai découvert tout récemment qu'il peut y avoir des racines dans le fait que mon grand-père était un enfant adultérin d'une union entre mon arrière-grand-mère et un Allemand.
Ah oui.
C'est intéressant de voir ça. Donc ça veut dire que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, côtoyait des gens des forces d'occupation de l'Alsace à l'époque. C'était une artiste.
On parle de l'occupation...
En Alsace.
Après...
En 1870.
Après 1870, voilà, d'accord. D'accord.
Elle a été une très grande amie de Nietzsche.
Votre arrière-grand-mère.
Ouais, ouais. J'ai récupéré et fait traduire récemment toute sa correspondance avec Nietzsche. Oh, dont je connaissais l'existence, mais je ne savais pas du tout où c'était. Voilà. Donc, il y a...
Comment elle s'appelait?
Louise Ott.
Oui, d'accord.
Louise Ott. C'était une artiste et elle avait beaucoup de relations avec... Elle avait un salon à Paris, elle invitait des artistes et tout ça. Voilà. Bon, mais je pense que il doit y avoir des trucs troubles entre l'Allemagne et la France dans cette histoire familiale, dont j'ai hérité parce que j'ai fait une bonne partie de mes études en Allemagne.
Ah, d'accord.
J'ai beaucoup de liens avec l'Allemagne moi-même.
Oui, mais il y a plusieurs façons d'avoir des rapports avec
l'Allemagne. Voilà, oui, alors mais j'ai toujours été attiré par l'Allemagne, comme s'il y avait quelque chose qui me...
Dans le sang.
Qui me travaillait. Hein.
Alors racontez un peu vos études.
Donc, mon père était agriculteur, il avait tous ses frères, enfin, ils étaient cinq frères, il y en a trois qui travaillaient ensemble, et lui a travaillé avec eux jusqu'à la fin de la guerre. Et puis en 49, en 50, il a décidé de voler de ses propres ailes. Il ne voulait plus travailler avec ses frères.
Voilà. Oui.
Mais mon père, parce que mon père avait essayé à l'époque, et ça va en reparler, ça va avoir des conséquences pour moi, il avait essayé, il était très influencé par les systèmes communautaires. Il voulait créer dans l'exploitation agricole une communauté entre les patrons et les ouvriers.
Ah ouais, d'accord.
Hein? Voilà, donc c'était assez étonnant. Mon père avait des idées un peu d'extrême droite, bien que c'était pas du tout... on n'a jamais eu d'expression raciste, ni trucs comme ça. Mais il y avait un petit peu qu'on faisait partie de l'élite. Voilà,
oui.
Toute petite bourgeoisie pauvre, mais on faisait partie de l'élite. Mais il avait vraiment une fibre sociale qui était tout ce qui était autour de la vie en communauté, des systèmes communautaires plutôt, c'était pas la vie en communauté. Et il a tenu à fabriquer son pain, nous avons mangé du pain fait à la maison pendant des années.
Oui.
Nous nous soignions avec de l'homéopathie, enfin voilà, tout ce qui est très en vogue aujourd'hui, tout ça, moi je l'ai connu déjà à l'époque.
Mais il y avait les rapports patron-ouvrier étaient, vous aviez des ouvriers agricoles.
Dans cette entreprise-là, oui, il y avait des ouvriers agricoles. Et donc mon père voulait faire un système d'intéressement des ouvriers. Bon, mais ses frères n'étaient pas d'accord.
Ah ouais,
et
d'accord.
Du coup, il a été obligé d'arrêter.
Il est parti.
Voilà, il est parti. Et il a après, avec l'héritage, sa part d'héritage, il a acheté une propriété. Mais il a continué à être en lien avec ses frères, parce que il vendait son raisin à ses frères qui faisaient le vin.
D'accord.
Lui, il n'avait pas de cave. Ça aurait été son rêve de faire son vin, mais il n'a pas pu.
D'accord.
Puis c'est un rêve que mon frère aîné a essayé de reprendre, mais il n'y est pas arrivé non plus, puisque la propriété était trop petite.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai vécu à la campagne. Nous habitions à 10 km de la ville la plus proche. Et j'ai fait ma scolarité au lycée de Hyères.
Oui.
Scolarité un peu... C'est toujours limite, quoi. T'es repêché au dernier moment.
D'accord.
Je m'ennuyais profondément au lycée. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais vraiment, c'était pas les capacités qui me manquaient.
Donc vos années de lycée étaient quand vous étiez au lycée?
Alors c'était de 63... 62 à 68.
Oui. Et vous avez eu le bac?
J'ai passé le bac en 68, voilà. Donc je l'ai eu grâce à ça, sans doute. Parce que je n'ai eu que des oraux, donc ça m'a permis de le réussir.
Ah bon, d'accord. Vous êtes mieux à l'oral.
Ben, en tout cas, il y avait un climat tel qui faisait que les sujets n'étaient pas trop difficiles. Mais je suis quand même tombé sur des sujets que je savais par cœur. Hein. Il y avait des choses que je savais.
D'accord.
Mais je pense qu'à l'écrit, j'aurais pas réussi.
D'accord. Ouais. Et après, vous avez fait des études supérieures?
Et alors après, donc ce qui m'a beaucoup démotivé pendant ma scolarité, c'est que je savais pas ce que je voulais faire. Du moins, je le savais, mais je n'osais pas le dire, ou il n'y avait pas les informations pour ça. Et à la fin de mon année de première, j'ai fait un séjour en Allemagne où là, j'ai rencontré des Français, dont un qui était dans une école préparatoire de théologie. Ce qui m'intéressait, en fait, c'est de faire de la théologie.
Oui.
Mais il y avait cette idée qui était complètement fausse et qu'on n'avait même pas vérifié. On croyait qu'il fallait avoir fait du latin pour ça.
Ah oui.
On n'avait même pas pensé à demander au pasteur de notre paroisse. Bon. Et donc, quand j'ai appris ça, dans les 24 heures, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, je fais de la théologie.
D'accord.
Et donc, je me suis inscrit provisoirement en attente. En attendant, un ami m'a conseillé d'aller à Lyon, parce qu'il y avait près de Lyon une école préparatoire de théologie pour ce qu'on appelait les vocations tardives, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas le bac et qui voulaient faire des études de théologie. Donc là, ils pouvaient refaire un cursus scolaire à partir de la troisième.
Oui, mais vous n'aviez pas la vocation tardive.
Moi, j'avais le bac, oui. Mais c'était pour faire du grec et de l'hébreu.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'on m'avait dit, le plus dur la première année, c'est le grec et l'hébreu.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc j'ai fait un an à Lyon. J'ai eu une initiation au grec et à l'hébreu.
Oui.
Bon. Et après, je suis rentré à la faculté de théologie de Montpellier.
En 69?
Alors c'était en 69, voilà. À la rentrée 69. Bon, donc j'ai fait 2 ans à Montpellier, et après j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en Allemagne, à Heidelberg.
Oui.
Et où je suis resté 3 ans. Parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Donc,
71...
De 71 à 74.
D'accord.
Alors, là je commençais déjà à me poser des questions qui étaient structurantes pour moi. C'est que un de mes frères, celui qui était juste avant moi, avait rencontré à l'université d'Aix-en-Provence un enseignant qui était un ami de Lanza del Vasto.
Ah oui, d'accord.
Et donc mon frère avait été assez conquis par les idées de cet ami qui s'appelait Pierre Souiris.
Comment ça s'écrit ?
S-O-U-Y-R-I-S.
Oui.
Qui était chrétien et qui a convaincu mon frère qu'il y avait incompatibilité entre l'évangile et les armes. Voilà. Et donc j'avais souvent des discussions avec mon frère là-dessus.
Oui.
Et en 1968, mon frère était objecteur. C'était une période où c'était difficile pour les objecteurs en France.
Oui.
Ils avaient un statut qui avait été arraché par une grève de la faim de Louis Lecoing,
oui, oui.
Un anarchiste.
Oui.
Mais ils étaient obligés de travailler pour les hôpitaux de Paris à l'époque. Or, c'était un commandement quasi militaire. D'abord, ils avaient été affectés aux pompiers, à la sécurité civile.
Oui.
Là, c'était carrément dans l'armée.
Oui.
Et puis après, ils ont été affectés aux hôpitaux de Paris, mais ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont démissionné, ils ont fait une grève de la faim.
Vers quel moment ?
En 68. C'était en novembre. Novembre-décembre 68.
J'ai pas tout à fait compris parce que vous avez dit que ce Suiris avait convaincu votre
mon frère.
Avait convaincu voilà. Votre frère qu'il y avait
voilà.
Qu'il compatibilité y a... ou incompatibilité.
Incompatibilité
entre l'évangile voilà. Et les
donc
les
mon frère, d'accord. Confronté au service militaire obligatoire,
d'accord.
A décidé d'être objecteur.
Ouais.
Ça a un peu affolé mes parents. Mais bon, nos parents étaient assez libéraux pour dire ben, c'est toi qui choisis. Hein.
D'accord.
Et donc, il s'est retrouvé en prison à Lyon. Il a été enfermé à Lyon.
Oui, combien de temps ?
Pour désertion, 3 semaines.
Oui.
Et moi, j'étais à Lyon à ce moment-là. Et là, j'ai bien senti qu'il fallait que je choisisse. Il fallait que je me positionne.
D'accord.
Je ne pouvais pas rester, puisque j'étais complètement concerné par l'Évangile. Je ne pouvais pas dire, oui, mais il faut bien une défense nationale et tout ça.
D'accord.
Et en même temps, je découvrais Dietrich Bonhoeffer.
Oui.
Et donc, ça a été un peu un déclic pour moi. Là, j'ai dit, bon, ben, c'est clair, je fais le choix de l'objection, moi aussi.
Et vous avez dû faire votre service militaire à un certain moment ?
Alors, voilà. Donc, j'ai bénéficié d'un sursis
oui.
Pour faire mes études de théologie, pour terminer.
Oui.
Et je suis revenu en 74, en France.
Oui.
Pour réaliser mon service civil comme objecteur. J'avais été reconnu comme objecteur.
D'accord.
Sauf que, à l'époque, je pensais que, comme j'étais convoqué pour faire mon service civil en novembre 74,
oui.
Je suis rentré pour novembre 74. Enfin.
Oui.
Voilà. Mais je n'ai été convoqué que 6 mois plus tard. Parce qu'il y avait toujours un décalage entre le début officiel et...
D'accord.
Et donc là, comme j'avais 6 mois à attendre, quand j'en ai pris conscience, j'ai dit à l'église, ben, si vous pouviez me donner un travail dans une paroisse, parce que je n'ai pas envie de rester au crochet de mes parents. Et donc ils m'ont envoyé à Meruès, c'est une petite localité à 40 km d'ici.
Oui.
Donc
en tant que
pasteur délégué.
Oui. Hein.
Donc j'ai vécu de janvier, du 15 janvier au 15 juin là-bas. Et...
En 75.
Donc en 75, voilà.
Oui.
Et c'est là que l'affaire du Larzac est redevenue très présente pour moi. La lutte du Larzac est redevenue très présente.
Parce que vous l'avez.
Parce que j'en avais entendu parler.
Oui, dans
quand j'étais étudiant à Montpellier,
oui,
en 71, j'étais en lien avec. J'avais créé un groupe d'objecteurs. Alors mes engagements militants ont commencé, pas en 71, ils ont commencé en 69 à Montpellier.
D'accord.
Là, j'ai créé un groupe d'objecteurs.
De quelle sorte de gens et pourquoi faire ?
Il y avait des étudiants en théologie pour faire connaître l'objection de conscience. Parce qu'à l'époque, la loi autorisait l'objection, mais interdisait l'information.
Ouais, d'accord.
Ce qu'ils appelaient la propagande.
Oui.
En fait, Debré, qui était ministre de la Défense à l'époque, avait très peur qu'un parti politique se serve de la loi sur l'objection pour démoraliser... Enfin,
oui.
Voilà.
Parce que la loi sur l'objection datait de quand vous avez
alors, la loi sur l'objection en France datait de 1963.
Oui. Après la guerre d'Algérie.
Voilà. Voilà. De Gaulle avait promis qu'il y aurait une loi sur l'objection, mais il voulait attendre la fin de la guerre.
D'accord.
Et comme la promesse ne se réalisait pas, Louis Lecoing a fait une grève de la faim.
D'accord.
Et il l'a obtenue.
Pour faire un peu marche arrière, vous
Oui.
avez dit que votre frère a connu ou entendu parler de l'Inde del Vasto,
Oui.
vous aussi?
Et moi aussi, quand j'étais encore chez moi, donc mon année du bac,
Oui.
j'ai assisté à trois conférences de l'Inde del Vasto. Voilà.
Près d'ici,
À
enfin près
Toulon, à
de...
Toulon. C'était
Oui.
les amis de Toulon qui l'avaient invité. Alors j'étais à la fois séduit par les idées et un peu méfiant par rapport au personnage.
Oui, parce que c'était un personnage
Très,
curieux,
ouais, très
grand,
séducteur.
barbu,
Voilà, très séducteur,
excentrique.
très fermé. Ah non, excentrique, non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle excentrique. Mais il était habillé avec des habits de laine qu'il avait tissés lui-même, etc. C'était beau comme c'était,
C'était
ça
un
faisait un...
peu un chrétien ou
Oui, ah oui, tout à fait.
un croyant, enfin, mais
Oui, il était
il était
chrétien
ouvert aux
et il a
diverses
fait un gros
croyances.
travail de, il a essayé de faire un syncrétisme avec l'hindouisme parce qu'il
Oui.
est allé en Inde, il a rencontré Gandhi et en fait, il voulait créer en France, il a créé en France l'équivalent des ashrams gandhiens, la
D'accord.
communauté de l'Arche, dont la maison mère est à 50 km d'ici,
Oui.
au sud du Larzac, là.
C'est à Lunas, non, la maison mère.
Près de, oui, entre Bédarieux, Lodève et Joncelles, près de Joncelles, là.
D'accord.
C'est sur les contreforts du Larzac, la montagne noire.
Donc il vous a séduit, mais
Donc,
vous
du
avez
point de vue des idées,
des
sa lecture
réservations?
biblique me semblait très juste.
Oui.
Le personnage était trop séducteur pour moi, trop manipulateur
Oh,
même.
d'accord.
Hein?
Ouais.
Bon. Mais c'était peut-être déjà ma problématique à moi aussi.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous êtes venu sur le Larzac à quel moment? Enfin, vous étiez à Meruès?
Voilà, et donc à Meruès, j'avais convenu. Mon frère m'avait trouvé une place pour faire mon service civil comme objecteur près de Marseille, parce qu'il était lui, alors lui-même était, entre-temps, il était devenu responsable d'une communauté d'Emmaüs,
Oui.
communauté d'Emmaüs qui s'occupe des gens en errance et tout ça, hein.
Oui.
Et donc il m'avait trouvé une place pour faire un service civil comme objecteur.
À Marseille.
Ouais.
Quelle sorte de travail?
Social,
Oui.
le chiffonnier, on appelait ça le travail chiffonnier, récupérer des métaux, des meubles, voilà. Et vivre avec des gens qui sont en errance. Mais quand à Meruès, j'ai assisté à une séance, à un film, à la projection d'un film sur le problème du Larzac,
Oui.
là j'ai été tellement séduit d'entendre parler des paysans, de non-violence et tout ça, que j'ai tout de suite dit, bon ben c'est là qu'il faut que j'aille, sur le Larzac. Donc, parce que quand j'étais à Montpellier, j'avais entendu parler de l'affaire du Larzac,
Oui.
et puis j'étais parti en Allemagne, donc je n'avais plus de contact, mais je continuais à entendre parler de l'affaire du Larzac. Et
Oui.
quand j'ai vu ce film, sur la lutte du Larzac, là j'ai dit, bon, il faut que je donne un coup de main, là. Et puis j'ai pris contact. Et de fil en aiguille, après quelques réunions, il y a quelqu'un qui habitait à Saint-Martin, un franciscain, qui habitait à Saint-Martin et qui était chargé du chantier de la construction de la bergerie de la Blaquière, là.
C'était le père Roussel.
Pirot, Robert Pirot.
Pierrot. Ah oui, c'est ça.
Pirot.
Pierrot.
Il m'a dit, bah, écoute, tu peux habiter ici. Il y avait deux autres objecteurs qui habitaient avec lui. Tu peux habiter ici pendant 3 mois, après tu te démerdes. Voilà. Et parce qu'il y avait déjà l'idée, alors moi je venais avec une idée très ancienne, c'était de m'occuper d'animation de jeunes, de créer un centre d'accueil, etc.
Oui.
Et puis sur le Larzac, le premier jour où j'arrive, on me dit, il y a des maisons de l'armée à occuper, il y a des maisons vides, il faut les occuper. Donc je dis, mais voilà, c'est un projet qui tombe du ciel, quoi. C'est un peu comme ça que je le voyais à l'époque. Maintenant, je ne le vois plus comme ça, mais...
C'était son idée à lui ou l'idée du mouvement d'occuper ces maisons vides
C'était
de
le
l'armée?
Larzac, c'est parce que la ferme des Truelles avait été occupée quelques mois auparavant.
D'accord.
Et moi, donc, je me disais, ben, il faut qu'on crée un groupe d'objecteurs, puisqu'il y en avait un certain nombre sur le Larzac, qu'on crée un projet spécifique objecteur.
Hein. Donc, pour occuper une autre ferme.
Pour occuper une ferme, voilà.
Et c'était quelle ferme ?
Le Cun.
Le Cun.
La ferme du Cun.
Donc c'était une ferme qui avait été achetée par l'armée ou...
Alors c'était une ferme qui avait été achetée par un médecin parisien. Il avait acheté deux fermes.
Oui.
Et 180 hectares. Deux ruines, disons deux grandes ruines, qu'il a remises en état.
Oui.
Sommairement, mais c'était habitable, c'était fermé, il y avait une bonne toiture. Et mais ça, il l'avait fait avant l'extension du camp militaire, et il les a revendus à l'armée.
Oui.
Sans doute en se disant, il vaut mieux que je les revende maintenant à un bon prix, plutôt que me faire exproprier. Mais elles étaient dans le sud du plateau, dans le sud du périmètre d'extension.
Oui.
Voilà. Et donc, très vite, j'ai proposé aux paysans ce projet, ça les a séduits. Alors... Je pense que j'avais l'aura du pasteur aussi, bien que je m'en défende à l'époque, mais voilà. Pour eux, c'était un renfort.
Parce que vous avez été ordonné à un moment.
Non.
Non.
Non, je n'ai pas été ordonné.
Parce que ça se passe comment dans l'église?
Normalement, on est ordonné, mais 68 était passé par là. Et il y avait des tas de pasteurs qui disaient, je ne vois pas l'intérêt de l'ordination.
Ah, d'accord.
Et moi-même, quand j'ai posé la question, on m'a dit, si tu y tiens, oui, mais c'est pas nécessaire pour être dans l'église.
Voilà. Ah,
et comme de toute façon, j'avais pas l'intention de devenir pasteur, ça m'a pas plus travaillé que ça.
Oui, mais vous étiez connu comme pasteur.
Parce que j'étais à Mérues comme pasteur.
Oui, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Et que j'étais obligé de dire d'où je venais et que donc on m'a tout de suite présenté comme le pasteur. Voilà. C'est Robert Pirot surtout qui m'a présenté comme ça.
D'accord.
Et puis ça rassurait, du coup ça rassurait beaucoup les gens. Ça. Pour moi, ça a été une bonne entrée en matière
parce que c'est,
vis-à-vis des paysans.
D'accord, parce qu'il y avait des tensions entre les paysans du plateau et puis les gens qui venaient de l'extérieur.
On ne peut pas dire ça, mais il fallait faire ses preuves en tout cas.
Oui.
Voilà. Ça c'est clair, il fallait faire ses preuves. Donc a priori, on était bien accueillis, mais après, il y avait comme un examen de passage non dit. Et moi, mon examen de passage, je l'ai passé en faisant les foins. J'ai dû remuer 10 000 bottes de foin cet été-là. J'allais travailler chez les paysans.
C'était l'été de
75.
Voilà. Oui.
Et j'allais travailler chez les uns, chez les autres, je donnais un coup de main, et c'est comme ça que je gagnais ma vie. Puisque j'étais plus salarié de l'église, là.
D'accord. Mais vous avez pu aussi faire vos preuves par une action, comme l'occupation de la ferme.
Après.
C'était après.
Ça, c'est pendant l'été 75, et l'occupation de la ferme, ça s'est fait en octobre 75.
D'accord.
Voilà. De toute façon, les paysans m'avaient dit très vite, ce projet nous intéresse, mais c'est pas avant l'automne, parce qu'on doit faire la moisson, tout ça.
D'accord.
C'est à l'automne qu'on est disponible.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il y a eu d'abord des tensions dans notre équipe d'objecteurs, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le projet. Il y en a qui voulaient faire un truc paysan, une ferme et tout ça. Mais la maison qu'on avait retenue, il n'y avait pas de terre.
Oui.
Et moi, j'ai dit, si vous voulez faire une ferme, faites une ferme. J'irai ailleurs. Je choisirai autre chose, mais ce n'est pas ce projet qui m'intéresse.
D'accord.
Voilà, donc ils ont dit, non, d'accord, on est d'accord avec toi. Mais en fait, il n'y avait pas d'accord, donc ça s'est cassé plus tard.
Donc ils sont partis les autres.
Donc il y a eu, alors on a tenu un an, on a occupé cette ferme avec tout le soutien du Larzac et tout ça pendant un an. On a commencé à développer des activités.
Oui.
On a fait des travaux de restauration, d'aménagement et tout ça pour le créer, pour le transformer en centre d'accueil. Pendant l'été, au printemps et l'été 75, on a accueilli du monde.
Oui.
Mais en juin 75, on s'est retrouvé en prison.
Oui, c'est l'affaire de l'occupation.
Voilà, du camp militaire.
Du camp militaire.
Voilà. Donc sur 5 membres, on était 4 en prison. Avec la femme d'entre nous qui n'était pas, la femme qui faisait partie de notre équipe, qui n'était pas en prison. Bon, alors ça a un peu bousculé les choses. Et puis en fait, on a été expulsé le 24 octobre 76.
Oui.
Une expulsion parce que il y avait eu juste avant un défilé militaire qui avait été perturbé à Millau il y avait, c'était au moment de l'occupation d'une autre ferme. Si vous voulez, il y a à l'automne, en octobre 74, 75 et 76, il y a trois occupations de fermes.
Oui,
il y a l'Étruelle en 74, le Cune en 75 et Cavaillès en 76.
Hein? D'accord.
Voilà. Et donc là, l'armée a dit, si ça continue, on n'y arrivera plus. Donc, pfft, ils nous ont tous foutus dehors. Sauf les truelles, parce que c'était un projet paysan, c'était plus difficile d'accès, les paysans s'étaient organisés. Et puis c'était dans le nord du plateau, où les paysans étaient beaucoup plus actifs avec les burguères, tarliers, tout ça.
D'accord.
Tandis que dans le sud, on était avec des paysans plus craintifs,
d'accord,
beaucoup moins militants. Mais c'était notre choix d'essayer de renforcer un peu ce lieu-là.
Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Donc à ce moment-là, la première équipe a éclaté. Je me suis retrouvé tout seul.
Oui.
Et le lendemain de l'expulsion, j'ai trouvé une maison à louer.
Oui.
Donc je me suis retrouvé à Saint-Martin d'abord pendant quelques jours. Et puis là, j'ai trouvé une maison à louer. Et donc en janvier, il y a eu quand même trois mois là d'incertitude. Et donc en janvier, je me suis réinstallé dans cette maison pour continuer le projet.
À Saint-Martin?
Non, à la Blaquererie à côté du Cune.
Oui.
La maison que j'avais trouvée à louer. Dans l'idée de rester dans le sud. Et j'ai reconstitué une autre équipe d'objecteurs. Alors, j'ai lancé un appel, et il y a des gens qui sont venus me donner. Alors, c'était marrant, parce que c'était la moitié de marginaux parmi nous, et tout ça, c'était bon.
Quelle sorte de gens, venus de d'où?
De n'importe où. Ils avaient entendu parler du Larzac, des objecteurs, donc ils venaient donner un coup de main.
Voilà. Oui.
Et il y avait parmi eux un étudiant en droit, qui venait de Nancy, et qui voulait quand même rentrer au service militaire pour contester à l'intérieur et tout ça, pour se défendre. Et puis, il a été réformé parce qu'il ne tenait pas le coup.
D'accord.
Mais il voulait quand même continuer un temps de service.
D'accord.
Pour lui, c'était important de faire un temps de service. Donc, il est venu donner un coup de main pendant 6 mois. Bien. Ça a continué. On a travaillé pendant 2 ans et demi, mais dès le printemps, on a discuté d'une nouvelle installation. On savait que notre installation là-bas serait précaire.
Oui.
Et donc, on a travaillé sur une nouvelle installation. Moi, je voulais faire une installation dans le sud, construire.
Oui.
Mais les paysans de notre conseil d'administration ont dit non, il faut revenir dans le nord. Et donc, en cherchant, on a fini par trouver ce terrain-là. Et
d'accord,
on a commencé à construire ici l'été 77, 1er août 77. Mais on était en zone d'utilité publique, donc c'était une construction sans permis.
Mais c'est illégale. Ici que vous avez été éjecté auparavant, c'est
non,
ça?
Le Cune, c'est le nom qu'on a redonné au lieu.
Ah ouais, d'accord.
Mais le premier Cune, c'est à 30 km d'ici.
Ah d'accord.
Hein? C'est dans le sud du périmètre d'extension. Il faudrait que je vous retrouve une carte.
Non, mais je crois que j'ai une carte.
Vous
là,
avez une carte
ancienne.
Voilà, alors le Cune est marqué dessus. Voilà, ici la cavalerie,
oui.
Ici, et la ferme du Cune, vous avez la Blaquererie ici, c'est là où on a habité 2 ans.
Oui.
Et ici, entre les deux, là, ça c'est la Salvetta, c'est l'autre ferme qui était avec celle qui est là. Elle est marquée là, non, c'est pas marqué. Mais il y avait la ferme du Cune qui était ici.
Oui, d'accord.
Voilà. Ces deux fermes avaient été achetées par ce médecin parisien.
D'accord.
Donc on a été expulsé d'ici, on s'est installé là provisoirement.
Oui.
Et maintenant on est ici.
Oui, d'accord. Voilà. Ouais, c'est bon.
Ben parce que le projet d'extension était assez grand. Hein. Il descendait jusque-là, il arrivait près de la couvertoirade et il repartait comme ça.
Ah, d'accord.
Et comme ça.
C'est grand, ouais.
Oui. Oui, 14 000 hectares d'agrandissement.
Donc vous avez commencé à vous installer et à créer un centre.
Alors, notre idée, c'était de construire un lieu de formation et d'accueil. Donc on a commencé à construire et puis il y a eu bien sûr une interdiction des travaux.
Oui.
Mais à ce moment-là, il y a eu un conflit au sein du groupe des paysans. C'est-à-dire qu'il y avait une grande discussion autour de la négociation. Négocier ou pas négocier.
Oui.
Bon. Et quelque part, mais pas seulement, on a été un petit peu les victimes du conflit qu'il y avait entre les paysans qui étaient à l'est et oui, les paysans qui étaient à l'ouest. C'est-à-dire les leaders étaient de ce côté les tarliers burgières.
Oui, qui étaient pour la non-négociation.
Qui étaient pour la négociation.
C'était la négociation avec le gouvernement
pour résoudre le problème. Pour négocier, et ils disaient, si on négocie, on lâche un morceau. Et qu'est-ce qu'on lâche? Ben, on lâchera à l'Est.
Ouais, d'accord.
Mais à l'Est, il y avait José Bové, il y avait des paysans plus traditionnels. Et donc, eux disaient, il n'est pas question de négocier.
D'accord.
Voilà.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Et moi, j'ai fait la grosse erreur, quand j'ai annoncé ce projet, de dire, c'est un projet de 500 000 francs.
Oui.
Il ne fallait pas parler d'argent dans un milieu paysan.
Pourquoi?
Voilà. Ah ben parce que les gens, tout de suite, il y a des gens qui ont soupçonné que les paysans qui nous soutenaient allaient détourner de l'argent à notre profit.
Ah oh, d'accord.
Voilà.
Mais qu'est-ce que vous avez fait pour financer le...
Alors on a créé une société civile immobilière.
Oui.
Et qui, à force, a été composée de 1800 personnes. Je me suis inspiré des GFA Larzac.
Oui.
Hein, en disant, on va faire une propriété collective. Donc les gens vont donner des parts de 200 francs. À l'époque, c'était 200 francs, 77. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire notre assemblée générale, là, le 21 juin, de la SCI, du CUN.
Ah ouais, d'accord. Donc, ce sont des gens d'un peu de partout qui
partout, en France, en Allemagne, hein, qui ont acheté une part de SCI, comme certains avaient acheté une part de GFA.
Oui.
Sauf que c'était moins cher. Voilà. Et c'est avec cet argent qu'on a pu construire et équiper tout le CUN. Voilà. Donc juste en 77, on a commencé à construire, il y a eu interdiction des travaux, et à ce moment-là, on n'a pas pu transgresser l'interdiction parce que le Larzac était divisé.
D'accord.
On aurait pu le faire si tout le monde était uni, mais on n'a pas osé. Et c'est venu 2 ans plus tard.
Oui.
C'est-à-dire qu'après, en 79, on est venu s'installer ici, sous la tente. On a organisé toutes nos sessions de formation sous la tente, la bibliothèque sous la tente, les réfectoires et tout ça. Et à l'automne 79, on a construit la première maison en bottes de paille.
Oui.
Alors ça a plu à tout le monde.
En bottes de paille.
En bottes de paille. Ben vous allez voir, vous visiterez. Oui,
c'est comme les trois petits cochons.
Voilà, c'est ce à quoi pense tout le monde. Mais c'est un procédé qui vient des États-Unis.
Ah ouais, d'accord.
Et qui est passé par le Canada. Il y a des églises qui ont plus de 300 ans aux États-Unis qui sont faites en bottes de paille, dans l'Arkansas. Ouais.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Et nous, on a eu vent de cette technique, de ce procédé, et on a réinventé un procédé pour la construire. On a été les premiers en Europe à construire ça.
D'accord.
Après-guerre. Parce qu'il y avait une maison comme ça qui date de 1926 à Montargis.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et qui existe toujours.
D'accord.
Donc, cette construction innovante, illégale bien sûr aussi, mais qui est allée très vite, a refait l'unité des gens autour du CUN.
D'accord.
Entre-temps, on avait montré comment on fonctionnait, enfin, il y avait moins de peur, il y avait tout ça. Hein.
Il y avait toujours une interdiction de bâtir.
Oui, mais là, le procureur a pensé que ce n'était pas une maison. Quoi.
D'accord.
Donc il n'a pas porté plainte. mais on avait pris nos précautions, cette fois on n'a pas construit en pierre, qui est très long. On a construit en paille, et en 3 jours, la maison était montée.
D'accord.
Voilà. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile à faire démolir. Hein, notre idée, c'était d'habiter dedans. Et tout ça.
Ouais, d'accord.
Mais le procureur, il a laissé tomber. Donc, on a pu commencer à s'installer vraiment, passer l'hiver ici, etc., en 79. Et puis, en 80, on a dit aux paysans, maintenant, nous, on en a marre, c'est trop dur comme vie, on n'est pas équipés. Donc, soit on peut reprendre la construction en pierre pour avoir plus d'espace, soit on arrête notre projet parce qu'on n'y arrive plus là. Ils ont dit d'accord pour reprendre. Là, de nouveau, tous les paysans étaient d'accord pour reprendre.
Mais ça s'est fait, vous avez eu des meetings
Il y avait des réunions toutes les semaines.
Oui, des réunions. Oui.
Tous les mercredis, il y avait une réunion sur le Larzac.
Et au même endroit, chez les...
Ça changeait dans les bergeries, ça changeait un peu chaque fois. Ça, c'est une chose fantastique de la lutte du Larzac, c'est qu'il y a eu au moins une réunion par semaine, souvent il y en avait beaucoup plus quand il fallait préparer un événement, et les paysans n'ont voté que 2 fois. Tout le reste du temps, c'était au consensus.
D'accord. Et ces 2 fois, c'était quand?
C'était pour la négociation.
Oui.
Voilà. Pour aller rencontrer le préfet, la première fois, Et une autre fois, je ne sais plus à quelle occasion c'était.
D'accord.
Mais j'y étais pas, moi. Voilà. Voilà. Et à partir de... Et alors, on a repris la construction. Il y avait 81 qui s'annonçaient, mais on a commencé à reconstruire avant les élections.
Oui.
Et puis après, avec les résultats, on a construit de plus belle, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, en décembre 81, on avait fermé les locaux de la grosse maison en pierre qui est là, enfin une partie en tout cas. Et là, à partir de là, on a eu le permis de construire, on a pu régulariser.
Et vous pouvez me dire quelque chose sur votre centre?
Alors, l'idée, c'était de créer un lieu. Déjà, quand on a créé le CUN, le premier CUN, hein, puisqu'on en est au troisième
oui.
ici,
oui.
C'était de créer un lieu de formation et de recherche sur les modes de résistance non violente. On disait civil et populaire.
Voilà. Oui.
Puisqu'on était affronté à un système militaire de défense nationale, on voulait montrer qu'il existe des tas de possibilités d'impliquer la population civile dans des modes de résistance non violente.
Voilà. Oui.
Et à l'époque, il y avait, par exemple, le mouvement international IFOR. Ça vous dit quelque chose?
IFOR.
International Fellowship of Reconciliation.
Oui.
Voilà. Qui publiait, dont je faisais partie, et qui publiait des petites monographies de chercheurs comme Galtung, Theodor Ebert.
Oui.
Allemand, norvégien. Sur... des exemples de résistance civile en Tchécoslovaquie au moment de l'invasion, dans la Ruhr, quand la France a occupé la Ruhr en 1923, qu'est-ce qu'il y avait eu autour de la Hongrie, il y avait eu un problème en Hongrie, je ne sais plus à quelle époque, enfin, il y avait des tas de monographies d'exemples historiques de résistance civile.
D'accord.
Ouais. Oui. Nous voulions promouvoir ça. Alors avec un projet très ambitieux, quand je regarde maintenant, c'est rigolo, mais il y avait l'idée de faire quelque chose qui puisse être avoir une autorité comme la fondation pour les études de défense.
Vous avez fait ces recherches en équipe dans la bibliothèque ou en faisant venir des gens qui ont eu l'expérience de certaines luttes.
Voilà, notre idée c'était de constituer une bibliothèque, de réunir des gens, mais ça n'a jamais abouti. Enfin, la bibliothèque si,
oui.
Mais on n'avait aucun moyen pour constituer des vraies recherches et tout ça. Et puis on n'était pas chercheurs nous-mêmes.
D'accord.
On était des militants.
D'accord. Voilà.
Et ça suffisait pour nous, c'était un critère suffisant, mais en disant on peut s'appuyer sur des études de scientifiques, mais de faire des synthèses, etc. Voilà. Et avec, à côté de ça, de faire de la formation, c'est-à-dire de sensibiliser des militants à ces modes de résistance, et donc de faire des stages sur la non-violence, sur la défense, etc. Alors à l'époque, on avait dans nos amis... Le général de Bollardière.
Oui.
Vous avez entendu parler.
Hein? Oui, mais expliquez un peu, parce que c'est un général qui était contre la torture.
Alors, c'est un général qui a fait la guerre d'Indochine.
Oui.
Qui était un des plus jeunes généraux de France à l'époque. Qui a fait la guerre d'Indochine. Et en Algérie, il faisait partie de la Légion. Et en Algérie, il s'est prononcé publiquement contre la torture.
Oui.
Voilà. Donc, il a été mis en forteresse pendant 2 mois par De Gaulle.
Oui.
Il a été mis à la retraite, anticipé.
Oui.
Et là, il a commencé, pour vivre, il a commencé à faire de la formation. Et il a rencontré des gens qui se réclamaient de la non-violence. Et il a été très intéressé. Et du coup, il est devenu un ardent défenseur de cette aide. En disant, c'est pas avec l'armée qu'on va résoudre les problèmes.
Hein. Et après, comment t'expliquer, enfin, c'est un autre sujet, mais en deux mots, comment t'expliquer son déclic, le fait qu'il s'est fait soldat, puis il s'est révolté contre la torture?
Parce qu'il disait, avec la torture, on n'est plus dans la défense de valeurs. Il estimait que l'armée permettait de défendre certaines valeurs et certains systèmes, etc.
Oui. Oui.
Mais qu'avec la torture, on passait à un stade qui était plus de l'ordre de l'humain.
D'accord.
Voilà, et que ça choquait profondément ses valeurs, et puis sans doute qu'il avait vu suffisamment tout ce qui se passait en Algérie en particulier, était plus prêt à cautionner une armée coloniale.
Oui.
Hein? Voilà.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Donc il a travaillé avec vous.
Donc il a travaillé dans des milieux que nous côtoyons. C'était le mouvement pour une alternative non violente à l'époque.
Oui.
Voilà. Et puis on est rentré aussi en lien avec un autre général, le général Beckham. qui lui avait été enseignant à l'école de guerre,
oui,
et qui avait une approche politique en disant, en principe, on dit voilà comment on va défendre, avant de se poser qu'est-ce qu'on va défendre.
Oui.
Donc forcément, c'est les moyens qui déterminent la fin. Et lui, oui, il dit non, il faut reprendre le problème, qu'est-ce qu'on veut défendre en réalité.
Ouais.
Une approche politique, et à ce moment-là, on regarde quels sont les moyens qui sont à la main. Alors, il y a des moyens militaires, sans doute, mais il y a aussi des moyens civils, et pourquoi pas des moyens non-violents. C'est un type qui est très ouvert.
Ouais.
On a beaucoup sympathisé, il est venu animer des stages ici, c'était très sympa. Et puis, à cause de la lutte du Larzac, je suis rentré en contact avec l'amiral Sanguinetti,
ouais,
qui avait été mis sur la réserve par Giscard d'Estaing, parce que l'amiral Sanguinetti avait dénoncé les visées de Giscard de supprimer la flotte française.
D'accord.
Sanguinetti était très gaulliste et il disait là, c'est trop dangereux ce qui se passe. Donc Giscard l'a mis à la retraite, mais du coup, il lui a libéré la parole. Et il s'est mis à être très très critique sur tout ce que faisait l'armée, tout en restant un militaire convaincu et tout ça.
Ouais, d'accord.
Mais il est venu apporter son soutien aux paysans du Larzac.
Mais il partageait vos idées, il était
pas
déjà...
du tout. Non. Pas du tout.
Non.
Mais il disait. Ce projet d'extension du camp, c'est un projet spéculatif.
D'accord.
Et donc, il nous a amené l'arrière-plan, qui nous a compris, qui nous a permis d'interpréter tous les faits que nous avions. Et effectivement, nous avions plein de faits qui prouvaient que c'était un projet spéculatif, qui n'avait rien à voir avec les besoins des militaires.
Ah, d'accord. Spéculation des terres.
Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient proches du pouvoir,
oui,
qui sont venus acheter des terres ici,
oui,
et qui ont fait pression sur le gouvernement,
ah,
pour qu'il décide l'extension d'un camp militaire.
D'accord.
Et lui nous a dit, en 40 ans de carrière, il n'y a pas un projet de port, de caserne, d'aérodrome, de camp militaire qui ne parte de spéculateurs.
D'accord.
Voilà. Donc tout militaire qu'il était, et il défendait très fortement d'être antimilitariste,
oui,
et il nous avait dit, attention, hein, si vous me piégez, je fais un clash. On a toujours été très réglo. Je lui ai dit, non, nous serons toujours réglo avec vous. Et puis c'est devenu un ami.
Oui.
Et il en est même arrivé, au moment de la reprise des essais nucléaires, à remettre en cause la bombe.
Ah, d'accord.
Ouais, il a fait un cheminement très très intéressant. En nous côtoyant, en respectant nos différences. Mais... Et c'est amusant parce que pendant la marche du Larzac, quand on est monté à Paris à pied, là, quand les paysans sont montés à Paris à pied,
oui,
à Orléans, j'ai animé un meeting, il y avait 2000 personnes, avec le général de Bollardière, général Beckham et l'amiral Sanguinetti.
Ah, d'accord.
Ça a été un gros coup politique, là.
Mais ça, c'était en 78.
Ça, c'était en 78.
78. Ouais, ouais,
décembre 78. Ouais. Mais Sanguinetti étant toujours sur la réserve, mais je lui ai dit non, on ne vous piégera pas. On promet, je suis garant, on ne vous piégera pas. Ouais. Ce qui a créé
donc
des liens.
Avant que le centre soit construit, terminé, vous étiez toujours.
On avait déjà, organisé des stages de formation, on avait déjà. Voilà, ce qui fait que quand on s'est installé ici, on se retrouvait avec des semaines avec 90 personnes.
D'accord.
Voilà. Et donc on organisait plusieurs stages en même temps, avec des formateurs d'extérieur et tout ça. C'était un lieu militant très important.
Et vous avez accueilli des gens de. Quelle sorte de gens est venu d'où?
C'était beaucoup un public enseignant, travailleurs sociaux. On se rendait compte que la plus grosse partie de notre public, c'était des gens qui étaient dans la relation,
oui,
qui avaient un métier lié à la relation.
Oui.
Voilà. Et c'était des gens qui venaient de toute la France. On a eu beaucoup d'Allemands aussi, parce que moi, j'avais des liens avec l'Allemagne.
Oui.
J'entretenais ces liens, etc. Avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et... Donc tout ça a bien marché. Alors ici, on avait une vie communautaire. On partageait les biens, les ressources,
oui,
et tout ça. On faisait toute une recherche sur l'alimentation, sur les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on a électrifié avec une éolienne.
Oui.
Ça s'est fait,
oui,
dans
d'accord,
le temps. Voilà. On avait construit des citernes pour récupérer l'eau. Enfin, on voulait être à la fois un lieu un peu cohérent,
hein, oui,
en disant de toute façon, les problèmes des énergies, l'approvisionnement en énergie, c'est un problème militaire aussi. On le voit encore mieux maintenant qu'à l'époque, quoi.
Puisqu'on travaille aussi sur l'Allemagne, est-ce qu'il y a eu des équivalents en Allemagne de la lutte du Larzac ou de,
oui,
des centres de formation que
voilà,
vous avez fait ici?
Alors il y a un Allemand qui était très intéressé par la lutte du Larzac et qui a créé un peu l'équivalent du Kuhn à Gorleben,
oui,
dans le grand lieu où il y a la lutte qui continue contre le retraitement des déchets nucléaires, le stockage des déchets nucléaires dans le nord de l'Allemagne. au nord de, à l'est, au nord-est de Hambourg.
Oui. Comment il s'appelle?
Il s'appelle Gorleben.
Ah, ça, c'est le nom du type.
Non. Alors, le type s'appelle Wolfgang Hertel.
Oui.
Et il a écrit un petit livre que j'ai dans la bibliothèque, là. Et donc, lui a beaucoup... Et je continue à être en lien. Je vais sans doute le rencontrer, là, la semaine prochaine à Paris, au Salon des Initiatives de Paix. Il y a un gros salon à Paris des Initiatives de Paix, là.
Oui, d'accord.
À la fin de la semaine. Donc, il a créé un lieu de rencontre, de formation, etc., qui continue...
Oui.
Avec aussi des hauts et des bas, parce que voilà, ce sont des choses militantes et il y a souvent beaucoup d'ambiguïté là-dedans.
Et est-ce que, parce que je voudrais examiner un peu votre perspective, s'il y avait une convergence ou une divergence de perspective, parce qu'au début, la lutte du Larzac était pour sauvegarder la terre, les terres des paysans.
Oui.
Et vous, vous avez eu une perspective beaucoup plus internationale, beaucoup plus, je dirais pas politique, mais...
Si, elle était plus politique. Mais c'était d'accord. Déjà là. Les paysans avaient déjà en 1974, il y a eu une grande moisson,
oui.
Et ils ont donné l'argent au Sahel, aux paysans du Sahel.
Oui.
Il y avait déjà des tas de mouvements internationaux qui étaient présents sur le Larzac. Là, on n'a rien créé, là.
D'accord.
On n'a fait que suivre le mouvement. En 1974, en 1975, quand on est arrivé... Le mouvement était déjà extrêmement politisé, il était internationalisé. Bien sûr, les paysans disaient, ici on défend des terres, mais on défend un certain style de vie, un certain droit au travail, on défend des outils de travail, etc. Ils avaient été très influencés par les paysans travailleurs de Bernard Lambert.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, donc, il y avait un discours politique ambiant. Et toute la réflexion sur l'armée et tout ça avait commencé déjà bien avant nous. Avec l'abbé Jean Toula, avec Bollardière qui était déjà venu, qui nous avait précédé. Donc, non, nous on n'a fait que capitaliser des choses qui étaient là, qui étaient présentes. Donc ça les intéressait, je crois, de voir se cristalliser un peu ça ici.
Ouais.
Aucune.
Ouais.
Voilà.
Et puisque vous parlez de style de vie, est-ce que vous avez vu un rapport entre votre engagement politique et internationaliste et une certaine manière de vivre au jour le jour ici?
Voilà. Alors pour nous, c'était évident.
Oui.
C'était évident. D'autant qu'il y avait dans notre équipe des gens qui faisaient partie de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto.
D'accord.
Hein? Voilà. Donc... À l'époque, il y avait dans les mouvements non violents, il y avait en gros trois courants.
Oui.
Le courant le plus ancien qui venait de IFOR,
oui.
Qui était représenté par le Mouvement international de la réconciliation, et qui avait été très actif en 1974 parce que son permanent s'était présenté à l'élection présidentielle contre la bombe atomique, René Cruz. Le pasteur oui. René Cruz.
Oui.
Bon. Et puis, il y avait le mouvement de Lanza del Vasto,
oui.
L'arche de Lanza del Vasto, qui était assez important à l'époque. Il y avait plusieurs communautés, avec un rayonnement international. Et puis, Lanza del Vasto était connu comme poète, enfin, c'était vraiment un personnage, quoi.
Oui. Hein,
disciple de Gandhi. Et il y a eu, en 1974, la création du mouvement pour une alternative non violente, qui a fédéré des tas de groupes non violents en France. Il y avait une trentaine.
D'accord.
Voilà, sous la houlette de Jean-Marie Muller, général de Bollardière, et puis d'autres militants moins connus, dont un chercheur qui pourrait vous intéresser en tant qu'historien, c'est Jacques Semelin.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Et il faisait partie de ce groupe-là à l'époque. Et Jacques Semelin a publié des études très intéressantes sur les formes de résistance civile et tout ça.
Oui.
D'ailleurs, il vient de créer une fondation, vous avez entendu ça ? Une fondation qui s'appelle Masse Violence sur les problèmes de génocide.
Ah ouais, d'accord, oui, c'est ça.
Avec le parrainage de Simone Veil.
Oui.
Parce qu'il s'est beaucoup occupé, très vite intéressé au problème du génocide.
Donc il est venu ici ?
Donc il était venu aussi à l'époque. C'était un militant de base à l'époque. Il était psychologue.
Oui.
Il n'était pas du tout historien. C'est à cause de son travail sur la non-violence, etc., qu'il s'est intéressé à l'histoire, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et donc, il y a ces
trois courants. Et nous et moi, j'étais à la fois très intéressé par le Mann, par son discours politique, mais j'avais aussi la fibre chrétienne du Mir et l'intérêt pour la pratique communautaire.
Oui, oui.
Donc on s'est un petit peu vu comme ceux qui faisaient la synthèse, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre, en tout cas entre le Mann et l'Arche à l'époque, c'était des gens qui étaient très 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 opposés.
Pour quelles raisons ?
De leadership, à mon avis.
D'accord.
Leurs leaders étaient très antagonistes, comme sont souvent les leaders entre eux.
Oui. Lanza, vous...
Lanza et Jean-Marie Muller.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, deux personnages qui se ressemblent beaucoup, mais justement, ça explique leur opposition.
D'accord.
Enfin, le Mann disait, nous voulons une non-violence politique. Et Lanza di Basto disait, la non-violence politique, c'est vider la non-violence de son... de sa spiritualité, de l'essentiel que de la rendre politique, donc non, etc.
D'accord.
Et nous disons, pour nous, la politique et la communauté, et la spiritualité, c'est pas incompatible, mais on n'a pas développé le côté spirituel.
Voilà. Ici.
Aucune, on n'a pas développé le côté spirituel.
Oui.
C'est peut-être une erreur, mais à l'époque, moi j'étais avec des gens, moi je l'aurais bien développé, mais comme j'étais avec des gens qui ne le partageaient pas forcément, j'ai pas voulu... faire quelque chose de trop... qui nous aurait peut-être un peu plus marginalisé qu'on l'était déjà. Enfin, c'est difficile de faire ça.
D'accord.
Donc on a développé tout de suite, immédiatement, une vie communautaire.
Oui.
Voilà, avec partage des ressources, des biens et tout ça. Mais c'était aussi lié à une économie de subsistance.
Oui.
C'est-à-dire qu'on avait tellement peu de moyens que le meilleur moyen d'en avoir, c'est de les partager. Voilà. Et tout de suite, nous étions très branchés sur tous les problèmes de santé, d'alimentation, d'énergie. Voilà. Mes enfants sont nés à la maison, tous mes enfants, mes trois enfants sont nés à la maison. On avait une alimentation essentiellement végétarienne. On mangeait de la viande une fois par jour, une fois par semaine.
Oui.
Voilà. Et puis on a essayé très vite d'avoir des énergies renouvelables, etc. Pour nous, c'était ça notre engagement politique. Hein? En plus des liens avec le tiers-monde, avec l'étranger, tout ça. Mais on disait, ça ne sert à rien de faire de la politique si on ne commence pas par nous-mêmes.
D'accord, oui, bien sûr. Et donc, quand vous parlez d'une communauté, c'est une communauté de combien de personnes ?
Alors, ça a varié entre 4 et 13.
D'accord.
En gros. Voilà. À un moment, on était 5 couples. Parce que les objecteurs qui venaient faire leur service civil chez nous ramenaient leurs copines. Donc. Et à un moment, il y a eu 5 bébés. Bon. Et puis après, ils partaient. Il y avait un turnover considérable.
Oui, bien sûr.
Et il n'y a que moi qui restais. Enfin, il y a quand même une ou deux personnes qui sont restées 5 ans, 6 ans.
Oui.
Mais avec du recul, le paradoxe, c'est que... Donc, on voulait travailler sur la non-violence, les conflits, tout ça, mais qu'on a été une machine à produire des conflits. En interne.
Ici ?
Oui, dans notre communauté.
Mais de petits conflits entre personnes, c'est pas la même chose.
Non, mais c'est là que ça commence.
Mais quel genre de conflit ?
Ça commence autour de la communication, ça commence autour des... Moi, j'avais une position très ambiguë à l'époque, parce que à un moment même, comme il y avait des tensions dans qui prend les décisions, qui dirige, etc., on s'était organisé là-dessus.
Oui.
Et on a rencontré un professionnel qui s'appelait Charles Massiot de Lyon, qui nous a initié à l'autogestion. Pour nous, c'était évident que le prolongement de la vie communautaire, c'était l'autogestion.
Oui.
Bon. Et donc, il nous a donné toutes les clés pour nous organiser de façon autogestionnaire.
Oui.
Et moi, j'ai eu la possibilité de le mettre en œuvre, sauf pour une fonction, qui était la fonction de coordination, qui était indispensable.
Oui.
Parce que si chacun est responsable, il faut que quelqu'un, pas soit plus responsable que les autres, mais assume la responsabilité de coordonner tout le monde.
Oui.
Et moi, je prenais comme prétexte que j'étais déjà leader du groupe, et que donc, si je prenais cette responsabilité, je collusionnerais tous les pouvoirs.
Oui.
Ce qui était en fait un mensonge à moi-même, mais c'est comme ça que je l'ai vécu.
Oui.
Ce qui fait que cette place n'a jamais été prise, parce que c'était un bâton merdeux, on va dire. Toute personne qui le prendrait avait peur de rentrer en conflit avec moi. Puisque mon pouvoir était occulte en tant que leader.
Ouais.
Aussi occulte. Pas seulement, mais aussi. Et ce qui fait que bon, on s'est cassé la figure d'un point de vue économique. On n'a pas tenu le coup d'un point de vue économique. On s'est endetté avec des prêts d'amis et tout ça. Et puis il y a un moment où les tensions en interne étaient trop fortes.
Oui.
Et donc j'ai dit, bon, on arrête parce qu'on ne peut plus s'endetter maintenant. Il va falloir rembourser. Ça, c'était en 2001.
Donc il n'y a plus de communauté
donc,
à partir de 2001.
Non, alors, il y a eu une lente évolution parce que notre système communautaire faisait qu'on était à la frange de la légalité pour tout ce qui était les déclarations de salaire ou les déclarations de revenus et tout ça. Et donc, à partir de 92, on a fait venir une personne dans la communauté qui était chargée de gérer les histoires de comptabilité et tout ça, et qui petit à petit a mis notre comptabilité aux normes, mais a aussi dit maintenant il faut qu'on déclare des salaires.
D'accord.
Et puis il y avait ma femme, par exemple, a fait partie de la vie communautaire, mais après elle n'y était plus. Donc on avait des situations de couple qui étaient complexes, où l'un était dans la communauté, l'autre non. Donc c'était plus vivable, quoi. Donc on a commencé, on a dit, bon, mais maintenant on se sert des salaires. Alors à l'époque, c'était les salaires, c'était un demi-SMIC.
Oui.
Voilà. Mais on arrivait quand même à bien vivre parce que c'était un demi-SMIC, mais il y avait d'autres avantages. Voilà, il y avait plein d'avantages, plein de frais. On n'avait pas besoin d'avoir une voiture personnelle puisqu'on avait une voiture pour la communauté. On n'avait pas besoin d'avoir d'abonnement de journaux puisqu'ils étaient dans la communauté.
Oui. Hein,
c'était, il y a beaucoup, oui, beaucoup d'avantages. Mais nous n'avons pas été capables. Il y avait des questions très fortes liées à la chute de fréquentation de nos stages,
oui,
liée au mode d'accueil qu'on faisait. Il y a des questions qu'on n'a pas su aborder tous ensemble.
Oui.
Et il n'y a personne pour nous rappeler qu'il fallait absolument traiter ces questions. Alors,
d'accord,
on passait beaucoup de temps à traiter des questions annexes,
oui,
mais les questions de fond, on ne les abordait pas.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on a dû arrêter économiquement. Donc on a arrêté les activités de l'association qui gérait l'ensemble.
Oui.
Et on les a éclatés en plusieurs associations. Moi, j'ai repris tout le pôle de la formation et j'ai créé ma propre structure.
Ce centre, le nom qui est sur la porte ?
IECCC, oui. Voilà.
Oui. Le nom est...
Conflit, culture, coopération. Institut, oui, européen, conflit, culture, coopération.
Voilà. Ah, merci.
Et puis, on a cherché une autre association pour reprendre les activités d'accueil et d'hébergement.
D'accord.
Voilà. L'idée, c'est plus une seule association qui chapeaute tout, mais c'est différentes associations coordonnées.
D'accord.
C'était un peu dans l'idée des éco-villages et des choses comme ça, qui à l'époque commençaient à, bien que ça, c'était une idée qui commençait à se répartir, mais je me méfiais beaucoup parce que je voyais tellement de 68 heures à tarder là-dedans. C'était, la première rencontre a eu lieu ici, mais c'était, je me croyais 30 ans en arrière, quoi. C'est impressionnant. Des idéologues qui n'avaient jamais vécu en communauté et qui décrivaient tout ce qu'il fallait faire pour vivre en communauté.
Vous ne vous considérez pas
mais
comme...
Mais j'étais aussi, moi, ouais, un idéologue. Hein. Et ouais.
Oui, même un vieux 68 ans. Vous ne vous voyez pas comme tel.
Non, j'avais pas trop. J'étais à la fois un mélange de conservatisme. Je suis plutôt conservateur dans mon mode de vie et tout ça.
Oui.
Enfin, j'ai pas du tout été atterré. J'étais plutôt atterré, mais pas attiré par la révolte de 68. Pour moi, c'était une révolte.
Oui.
C'était pas une révolution. À la limite, tant mieux, parce que ça se termine toujours mal, les révolutions, mais bon.
Mais Cohn-Bendit ne dit pas mieux, il dit que c'est une révolte, pas une révolution.
Voilà. Et je ne croyais pas à la possibilité de la révolution.
Oui.
Par contre, je croyais à la possibilité, j'y crois toujours, de travailler quotidiennement. Nous sommes des consommateurs, nous sommes des acteurs quotidiens, et bon, c'est pas ça qui change le monde, mais c'est ça qui nous donne prise sur le monde, en tout cas. Après, comment on s'organise, comment on le fait, c'est une autre dimension. Et en tout cas, je suis convaincu que on ne fera rien de bien avec la violence, même si c'est le moteur de l'histoire, c'est pas avec ça qu'on change les choses.
Ouais.
On ne change pas, on ne fait que répéter. La violence ne fait que répéter.
Ouais. Et est-ce que vous trouvez que, par exemple, en Afrique du Sud, les gens ont, enfin, je ne dis pas vous ont suivi, mais vous avez apprécié cette manière de résoudre des conflits?
ce qui s'est passé avec le changement
avec
Mandela.
Truth and Reconciliation Commissions,
les commissions de réconciliation, voilà. Oui. Sauf que, alors ça c'est très beau comme processus, sauf que ça s'est arrêté, ce processus s'est arrêté quand ils mettaient en cause des gens du gouvernement.
D'accord.
Parce que c'est le gouvernement qui l'avait lancé. Et c'est là qu'on voit bien que tout processus de réconciliation, il doit impliquer tout le monde, et s'il ne peut pas mettre en cause même les acteurs d'aujourd'hui, eh bien ça ne peut pas marcher, quoi.
D'accord.
Voilà, et j'ai donc, moi j'ai été à l'initiative, mais ça a été une production collective après. J'ai été à l'initiative d'une rencontre à Paris en 89, parce qu'on fêtait, il y avait beaucoup de trucs autour des 200 ans de la Déclaration des droits de l'homme.
Oui.
Mais je disais, c'est bien de déclarer les droits de l'homme, mais comment on les défend et comment on les promeut. D'accord. Et ça, il n'y a que des méthodes non violentes qui permettent de le faire.
D'accord.
Donc à l'époque, on a réuni des gens d'Afrique du Sud, de la Palestine, c'est impressionnant les témoignages qu'il y a dedans,
oui.
Parce que pour un certain nombre, la situation a beaucoup évolué.
Et vous avez l'impression que les gens vous écoutent, ou vous êtes dans une mouvance qui se fait écouter?
Alors, par rapport à 68, il y a eu toute une époque, et c'était l'époque du Larzac, où les non-violents étaient plutôt pestiférés. Parce qu'il y avait beaucoup de militants gauchistes.
Hein. Oui.
Même un type comme Pierre Vuarin était à la GOP à l'époque.
Oui.
Gauche ouvrière et prolétarienne. Oui. Bon. Après, il y a eu des liens qui se sont créés, donc ça a changé de choses. Mais les non-violents, il fallait qu'on se tienne à carreau, quoi. C'était intéressant si on faisait de la non-violence politique, mais il fallait surtout pas en raconter plus.
Oui.
Et là, tout a changé. En 30 ans...
Oui.
La lutte du Larzac a montré l'efficacité de la non-violence. Il y a plein de milieux qui font de la non-violence sans le dire. Donc, il n'y a plus grand monde qui croit à la violence, à l'efficacité de la violence comme outil de changement. Mais quand même, on voit qu'il y a dans une frange de la jeunesse marginalisée un petit peu des gens qui disent « ce monde est pourri, donc ça ne peut pas être pire si on le fait péter ». Enfin, on pourrait très bien revenir à une période où il y a un terreau de gens qui sont très très révoltés,
oui.
Et il suffirait que quelques idéologues remettent un peu... Alors ça peut être des idéologues d'extrême droite aussi bien, hein. C'est pas forcément des idéologues d'extrême gauche.
Oui. Enfin, pour revenir à cette période-là,
oui.
Pierre Vuarin m'a dit qu'il y avait certains gens qui pensaient à la violence sur le plateau, mais
oui.
il n'a pas voulu tellement en parler, et c'est une question que je me pose un peu. Est-ce qu'il y avait quand même des gens... qui pensaient à résister à l'armée par des moyens violents à l'époque, dans les années 70.
Alors, du point de vue du Larzac, du point de vue des paysans du Larzac, non.
Non.
Parce qu'ils étaient tous cathos, conservateurs et tout ça.
Oui.
Hein, même Jean-Marie Burguer, je ne sais pas s'il vous a raconté,
oui.
Mais en 68, il disait aux flics, allez, tape, vas-y. Bon, voilà. Donc, eux, tout de suite, ont été convaincus, enfin, les dirigeants, ont
oui.
été convaincus par le discours de Lanza del Basto,
oui, oui.
en disant, vous avez la violence, vous n'avez rien faire, la passivité, vous partir, et au milieu, vous pouvez, avec la non-violence, réussir quelque chose.
Oui.
Donc, à partir du moment où les paysans ont su gérer, ont su avoir l'autorité sur le mouvement, ils ont dit, notre lutte sera non-violente.
Oui.
Pas question, on n'acceptera rien qui sorte de ça.
Oui.
Voilà. Il y a eu quelques tentatives, hein, il y a eu un attentat par-ci, un truc par-là, un jour, on leur a même confié 100 kilos d'explosifs.
Ah oui ?
Ouais. Et un paysan a dit, bon, ça peut toujours servir, on va le cacher. Le problème, c'est que ça a été retrouvé.
Ah bon, d'accord.
Après la lutte du Larzac, ça a été retrouvé. Et derrière le CUN, un jour, il y a un journaliste de Millau qui m'appelle, il me dit, Hervé, il y a de l'explosif qui a été trouvé dans une grotte, au CUN. Est-ce que tu sais où c'est ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Et tout de suite, j'ai vu le truc, ça y est, le CUN soupçonné de...
Oui, oui.
Oh,
oui, oui.
Alors, j'ai prévenu un paysan qui m'a dit, ah oui, merde, c'est vrai, on n'avait pas pensé à régler ce problème avec le préfet. Donc, il appelle tout de suite la préfecture, et la préfecture dit, non, en fait, c'est rien de grave, c'est pas grand-chose. Mais il y avait à peu près 100 kilos d'explosifs qui avaient été cachés dans une grotte, et le paysan avait dit, là, personne n'ira jamais les retrouver.
D'accord.
De chantier.
Oui, d'accord.
Mais ça permet...
Amené par un militant extérieur ou...
Oui, c'était des militants d'extrême gauche de Millau qui l'avaient piqué sur un chantier.
Oh, d'accord.
Parce qu'il y en a qui ont toujours plus ou moins rêvé de faire péter quelque chose.
Oui.
C'est plus pour le fun que pour la réalité, mais là, les paysans ont toujours été très clairs. Donc même les paysans d'extrême gauche savaient que ça serait s'opposer aux paysans du Larzac.
Oui.
Et les paysans ont été très fins pour accueillir des gens de tous les milieux, puisqu'il y avait de l'extrême droite à l'extrême gauche en 1974, sur le Larzac.
Oui, oui.
Mais en disant, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais c'est nous qui décidons. En dernier recours, c'est nous qui décidons. Mmh. Voilà. Et ça, je crois que ça a été la condition de la réussite de Larzac. Parce que on disait aussi, enfin les paysans disaient, vous venez poser votre bombe ici, mais demain, c'est nous qui avons l'armée sur le dos. C'est pas vous, vous serez parti.
Oui, d'accord. Voilà.
Donc ça a été un mode de régulation très très important. Mmh. Alors, voilà, il y a certainement des gens qui ont imaginé, mais de toute façon, c'était pas l'armée qui était... L'armée était aux ordres. Et puis petit à petit, ces militants, avec les liens qu'ils ont entretenus et tout ça, ont vu que les problèmes se posaient un peu autrement.
Ouais.
Que utiliser la violence, ça serait se retourner contre les paysans.
Mmh. Bon. Mmh.
C'était dans les milieux occitans, beaucoup. Les milieux occitans d'extrême droite et d'extrême gauche. Là, il y avait des gens qui voulaient vraiment en découdre. Mais bon, donc il y a eu ce débat chez les militants, il y avait le débat violence-non-violence.
Ouais.
Mais pour les paysans, c'était un problème réglé.
D'accord. Voilà. D'accord.
Avec certains par pur opportunisme,
oui.
Pour d'autres par pure trouille, mais ça faisait le consensus.
Oui.
Voilà. Et d'autres par intelligence.
Mais c'était aussi l'image de marque du Larzac.
Voilà. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait tellement de monde dans les manifestations parce que les gens savaient qu'ils étaient en sécurité.
Ouais, d'accord. Voilà.
Et du coup, ça cassait les critères des pouvoirs publics en face. Ils faisaient des grosses bourdes. Hein, puisque même en 77, quand il y a eu le rassemblement dans le camp militaire, quand les paysans ont dit on va marcher dans le camp militaire, le préfet a autorisé la manifestation.
Ouais, d'accord.
Il s'est fait taper sur les doigts. On lui a dit, vous n'avez pas à l'autoriser, vous avez à interdire ou à ne rien dire, mais vous n'avez pas à l'autoriser.
En 77, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, en 77, on sortait, il y avait eu 76 avec la prison.
Oui.
Et il y avait toute cette phase trouble de négociation, pas négociation, etc.
Oui.
Et donc, il fallait taper un grand coup. Parce que l'armée, on voyait bien que l'armée gagnait du terrain. Mais dans l'opinion publique, il y a des gens qui disaient le Larzac c'est fini et tout ça, l'armée se chargeait.
Ouais.
Donc les paysans ont dit il faut taper un grand coup. Et on ne va pas refaire un rassemblement comme en 73-74, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Donc on va manifester dans le camp militaire. Voilà. Et avec un grand rassemblement, comment ?
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré deux jours. Mais le rassemblement dans le camp militaire était ponctuel, il a duré quelques heures.
Oui.
Mais il y a eu un rassemblement des luttes sociales en France.
Oui.
Voilà. Avec les luttes antimilitaristes, à ce moment-là, il y a des comités de soldats, c'est-à-dire des soldats syndiqués dans l'armée, qui sont venus témoigner. Et puis, il y avait tout ce que la France comptait de militance, quoi. Le Larzac restait un lieu de rassemblement extraordinaire de ce côté-là.
Oui, d'accord.
Avec des forums, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, il y a eu une manif de 50 000 personnes dans le camp militaire, qui s'est très bien passée, très calme, juste un meeting. Voilà. Où l'armée a dû, avant, enlever le maximum d'obus et trucs comme ça pour pas qu'il y ait d'accidents.
Oui.
Bon.
Ils ne vous ont pas empêché de rentrer ?
Non, non. Ah, non. Ah ben, ils savaient que s'ils empêchaient, ils savaient que ça serait la catastrophe. Donc, ils ont préféré laisser rentrer, sortir. Et les paysans, chaque fois, négociaient très précisément en disant vous restez chez vous, nous, on fait le service d'ordre, il n'y aura pas de casse et tout ça. Voilà.
C'était dans quel mois de 77 ?
C'était août 77.
77, oui.
Juste 15 jours après la manifestation catastrophique de Malville.
D'accord.
Donc on avait très peur sur le plateau. On avait très peur qu'il se passe la même chose. Les pouvoirs publics étaient sur les dents. La gendarmerie était sur les dents. On écoutait toutes les conversations des gendarmes, parce qu'on avait des amis qui étaient bien placés pour avoir des appareils.
Rappelez-moi pourquoi cette manifestation
à Malville c'était la première grande manifestation contre le surgénérateur.
Oui.
Lancé par Giscard.
Oui.
Et il y a eu des groupes de tous les... Et c'est d'ailleurs un groupe non-violent, anarchiste non-violent, qui s'appelait La Gueule Ouverte, journal La Gueule Ouverte, qui a lancé ça. Et ils ont lancé une grande rencontre, mais sans organisation. Donc en fait, il y a eu des casseurs d'un peu partout qui sont venus, et il y a eu un militant tué,
oui.
Un gendarme tué, je crois un gendarme mobile aussi, et un gendarme qui a eu une main arrachée par une grenade ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça a plombé le mouvement antinucléaire pendant 20 ans.
Oh, d'accord.
Ça a été catastrophique. Voilà. Et Giscard avait décidé qu'il passerait à n'importe quel prix. Il défendait l'énergie nucléaire, donc il s'agissait de surtout pas lâcher le morceau. Ils ont mis toutes les forces qu'il fallait là-dedans.
Oui.
Voilà. Mais en face, les organisateurs étaient complètement incompétents. Il n'y avait pas de service d'ordre. Il y avait... Et puis il y a des gens qui voulaient délibérément aller à la
contre-exemple.
Ah, ça a été une catastrophe. On l'a payé pendant 20 ans, ce truc-là.
Parce que les gens du Larzac n'étaient pas portés sur... le nucléaire, les questions de nucléaire.
Ben, ils étaient sensibles à ce qui s'y passait, parce que en 75, il y avait eu beaucoup de contacts avec Fontevrault, avec les militants de Fontevrault qui avaient créé un GFA.
Oui.
Et puis après, en 79-80, on est allé à Plogoff soutenir. Et puis il y a eu, c'est très intéressant, le Larzac a influencé Fontevrault, Plogoff à l'ouest, et puis Fessenheim, il y avait la résistance à Fessenheim en Alsace, Ville en Allemagne à l'époque.
Oui.
Et jusqu'à Gorleben.
D'accord.
Donc le Larzac a eu une influence considérable sur le mouvement antinucléaire.
Oui.
Hein? Il était un peu précurseur.
Est-ce que vous avez milité dans d'autres mouvements au nord du vôtre?
Non, moi j'ai été donc pendant 2 ans au comité de coordination du MAN, et puis j'en suis sorti parce que ça m'allait pas du tout.
Oui.
C'était trop aérien, disons. Et puis, j'étais longtemps à IFOR, par contre, au comité de coordination d'IFOR.
Oui.
J'ai même dirigé à IFOR France, au MIR français. Oui. C'était un groupe encore plus petit, mais bon, j'ai été rédacteur des cahiers de la réconciliation à l'époque. Et puis sinon, le Larzac me prenait tout.
Oui. Une dernière question sur l'impact de ces années-là. C'est une question qui, c'est sans doute une réponse très simple. On essaye de juger un peu l'impact des luttes des années 60-70 dans la vie des gens par la suite. Enfin, chez vous, c'est tout à fait évident.
C'était ma vie. Et ça a représenté pour beaucoup de gens, le Larzac a représenté une période très très importante.
Oui.
Ça c'est clair. Alors parce que il y avait une dimension festive ici qui était très importante.
Oui.
Les gens venaient l'été, il y en a qui venaient l'hiver aussi et tout ça, mais l'été, le Larzac est magnifique, c'est un très beau lieu touristique.
Oui.
Il se passait beaucoup de choses, il s'en passe encore, beaucoup moins heureusement. On vivait 24 heures sur 24, quoi. C'était un peu épuisant aussi. Il y avait beaucoup de fraternité entre les gens. À partir du moment où il y avait toutes ces idées de non-violence, je veux dire que, bien sûr qu'on s'est engueulé, bien sûr qu'il y a eu des conflits de personnes et tout ça, mais il y avait comme une mauvaise conscience de les avoir. Il n'y avait pas de légitimation, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de travail qui était fait sur le lien. Et nous, l'hiver, on se voyait tous les mercredis en réunion, mais en plus, le samedi, on dansait ensemble. Enfin, il y avait tout le temps des groupes qui arrivaient. On faisait très souvent la fête. Et ça, je crois que c'est ça qui a fait la force de cette lutte. C'était à la fois fatigant, parce que les paysans travaillaient toute la journée, tout ça, et le soir, ils étaient en réunion. Mais la dimension relationnelle était une dimension fondamentale. En plus, il fallait passer beaucoup de temps à s'écouter, à s'accorder. La pratique du consensus faisait que il fallait passer beaucoup de temps à ça.
Oui.
Et ça, maintenant, en formation, je le réinvestis complètement. Et dans toutes les formations que je fais, j'interviens dans une école de commerce à Toulouse, où la semaine dernière, j'ai créé une formation de formateurs. Donc, pendant 9 stages, j'aurai les mêmes personnes.
Oui.
Et on n'arrête pas d'inciter là-dessus. La relation. C'est bien la production, on est performant, on a plein d'outils, je peux vous en donner encore, et tout ça. Mais sur la relation, nous sommes incompétents. Ne serait-ce que faire un petit exercice, je leur donne un exercice de décision rapide, il y a une manif qui va se passer, un attentat raciste, est-ce que vous allez à la manif et tout ça? Eh bien, tout de suite, bon, alors, les banderoles, qui y va, et tout ça, et puis se poser la question de celui qui a peur des manifs et tout ça. Non, ça vient pas. Donc, il bloque.
Oui.
Donc, on va passer en force. Donc, le groupe va éclater.
Oui.
Enfin, voilà.
D'accord.
Des trucs classiques, quoi.
Très intéressant.
Voilà.
Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre témoignage.
Eh bien, je vous en prie.
Merci.